Radio Classique. Et votre journée devient plus belle.
Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Nous sommes le mercredi 15 janvier, il est 6h30.
La matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
Et pour ouvrir ce journal direction les États-Unis, ultime débat cette nuit avant le début des hostilités, Marc Bourreau, chez les démocrates.
Et les 6 candidats n'ont pas retenu leur coup à Des Moines dans l'Iowa. Dernière joute télévisée avant les premiers votes à la primaire, ce sera le 3 février prochain. Débat qui a tourné à l'affrontement entre deux favoris, Bernie Sanders et Elizabeth Warren. Le premier aurait déclaré qu'une femme ne pouvait pas remporter la primaire. Réponse cette nuit de la sénatrice du Massachusetts.
La meilleure façon de savoir qui peut gagner, c'est de regarder le nombre de victoires électorales. Est-ce qu'une femme peut battre Donald Trump? Regardez les hommes dans cette salle. Ensemble, ils ont perdu 10 élections. Les seules personnes qui ont gagné tous les scrutins auxquels elles ont participé, ce sont les femmes.
Elizabeth Warren, très en forme cette nuit lors du débat démocrate. Bonjour Augustin Lefebvre.
Bonjour Marc, bonjour à tous.
Alors des prises de bec cette nuit, mais à l'arrivée, aucun candidat n'a vraiment réussi à sortir du lot.
Oui, et pourtant c'est déjà le 7e débat de la campagne. Il a été marqué par la politique étrangère. Une nouvelle fois, Bernie Sanders a critiqué le vote pour la guerre d'Irak de son rival Joe Biden en 2002. Il y a aussi eu des échanges tendus sur la politique commerciale des États-Unis, mais pour l'instant, les sondages ne donnent aucun favori et Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren et Pete Buttigieg n'arrivent pas à se départager. Les sondages dans cet état particulièrement sont très serrés. C'est un état clé puisque c'est le premier à voter. Le grand absent de ce débat, c'est l'ancien maire de New York, Michael Bloomberg, le milliardaire qui s'est lancé tard dans la campagne. Il a choisi de faire l'impasse sur cet état.
Merci Augustin Lefebvre. Aux États-Unis, toujours la Chambre des représentants vote aujourd'hui pour transmettre au Sénat l'acte d'accusation contre Donald Trump dans l'affaire ukrainienne. Dernière étape avant l'ouverture d'un procès en destitution du président américain, probablement mardi prochain. 6h32 sur Radio Classique, l'Iran aurait tiré 2 missiles sur le Boeing qui s'est écrasé la semaine dernière à Téhéran. 2 missiles et non un seul, comme annoncé initialement. C'est en tout cas ce que révèle le New York Times dans une nouvelle vidéo publiée cette nuit. Le crash de l'appareil ukrainien avait fait 176 victimes. Téhéran parle d'un tir par erreur. Les manifestations anti-pouvoir, elles, se poursuivent sur place.
C'est le journal de Marc Bourreau. Retour en France. Quand on écoute et qu'on explique, généralement, on arrive à comprendre.
Une petite phrase, Dimitri, d'Emmanuel Macron hier lors d'un déplacement à Pau en pleine contestation de la réforme des retraites. Alors que les négociations patinent avec les syndicats, le chef de l'État a dit vouloir lever les ambiguïtés du texte en continuant à l'expliquer. De quoi faire bondir Bruno Test, le secrétaire général de la FSU, était au micro de Rémi Pfister.
On porte un certain nombre de questions depuis le début auxquelles on n'a pas de réponse et on a simplement en face des éléments de langage. Si c'est ça qu'Emmanuel Macron entend par expliquer de nouveau les bienfaits de sa réforme, juste, équitable, simple, ce sont des choses qui sont plutôt de nature à nous énerver parce que derrière cette réforme des retraites, il y avait un projet de régression sociale, il y avait désormais l'absence de référence à un meilleur salaire. Personne n'est capable de nous démontrer le contraire.
La bataille contre la réforme des retraites qui se poursuit dans la rue, nouvelle journée de mobilisation partout en France. 42e jour de grève dans les transports, 80% des TGV et des TER en circulation, réouverture partielle du métro encore aujourd'hui à Paris. L'intersyndicale, enfin emmenée par la CGT, se réunit dans la journée pour décider de la suite du mouvement.
La réforme des retraites en discussion également au ministère de la Santé.
Agnès Buzyn reçoit à tour de rôle les syndicats pour évoquer la pénibilité et la gestion des fins de carrière pour le personnel médical et ça risque d'être mouvementé car avec la réforme et Émilie Vallès, les infirmiers, les aides-soignants nés après 75 devront travailler eux aussi plus longtemps.
Avec la réforme, les aides-soignants de l'hôpital ne pourront plus partir à 57 ans. Ce sera 60 ou 62 et les infirmières ne seront pas mieux loties. De quoi rajouter de l'huile sur le feu alors que l'hôpital public est traversé depuis des mois par une profonde crise. Le personnel hospitalier fait déjà état d'épuisement et se plaint des rythmes de travail. Le gouvernement doit donc éteindre l'incendie. Il assure que le travail de nuit sera notamment pris en compte. Le seuil pour toucher des points qui permettront de partir plus tôt à la retraite sera abaissé. Le Premier ministre a aussi promis de mettre en place un temps partiel en fin de carrière sans perte de revenus. Sur la pénibilité, en revanche, il ferme la porte sur un retour des 4 critères dont 3 touchent particulièrement le personnel hospitalier, les postures pénibles, le port de charges lourdes et les risques chimiques qui auraient pu permettre aux soignants de partir plus tôt. Le gouvernement préfère miser sur la prévention.
Les précisions d'Émilie Vallès. 600 à 800 personnes meurent chaque année faute d'avoir pu être greffées. Alerte à la pénurie d'organes dans les hôpitaux. C'est le bilan dressé aujourd'hui par l'association France Transplante. Son président, Jean-Louis Touraine, professeur de médecine, tire la sonnette d'alarme.
il y a un manque de formation au niveau des équipes entre la mission qui leur est dévolue, qui est d'organiser les prélèvements, et une autre mission qui est celle de l'accompagnement au deuil. Les blocs opératoires ne sont pas facilement accessibles parce qu'il n'y a pas de personnel pour les ouvrir, et donc on perd beaucoup d'occasions de prélèvement et de transplantation à cause de cette organisation défaillante dans lesquelles sont organisés les prélèvements.
Des propos recueillis par Lucie Coquart.
Enfin, une odeur de fumée et un parfum de polémique à l'Open de tennis d'Australie à Melbourne.
Les matchs de qualification ont pu reprendre cette nuit après une interruption d'une heure à cause des fumées. Les feux de forêt qui ravagent le sud-est du pays jouent les troubles faits depuis le début du tournoi. Certains suffoquent, déclarent forfait. Bonjour Charles Bonner.
Bonjour Marc.
Si bien que la grogne commence à s'installer chez les joueurs.
Oui, des quintes de tour en plein match. La Slovène Dalilou Jakupovic, contrainte hier de déclarer forfait. À la sortie, elle pointe du doigt l'organisation. Si nous n'allons pas sur le terrain, nous pouvons recevoir une amende. Autre critique du Britannique Liam Brody. La différence de traitement entre ceux qui doivent jouer et les qualifications quand les stars, elles, sont appelées à ne prendre aucun risque aux entraînements. Un paradoxe d'autant plus que les autorités conseillent aux habitants de rester chez eux, portes et fenêtres fermées. Alors que les joueurs, eux, étaient sur les courts, les organisateurs se défendent. Ils expliquent suivre les conseils d'experts médicaux. Mais avec la fumée qui recouvre la ville et les 34 degrés attendus aujourd'hui, difficile de croire que les conditions seront meilleures.
Merci Charles Bonner.
C'était le journal de Marc Bourreau. Merci. Il est 16h36. Dans tout de suite, le kiosque éco sur Radio Classique.